À toutes et à tous, nous sommes le mercredi 30 avril 2025, et vous écoutez Info Club Sandwich sur Radio Campus Amiens 87.7 FM, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Pour assurer l'émission, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Sonia. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va bien et toi ?
Toujours parfaitement, je suis aussi accompagné de Mathilde.
Bonjour.
Et pour finir, de Aline.
Salut, ça va ?
Eh ben ça va super, mais Aline, dis-moi, je ne peux m'empêcher de remarquer que tu n'es pas venue seule et tu as un invité très spécial aujourd'hui.
Exactement. Aujourd'hui, je reçois Denis Postel, président de l'Université Picardie Jules Verne. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, on va commencer simplement. Est-ce que vous pouvez simplement vous présenter, nous parler de votre parcours et de ce qui vous a conduit à la présidence de l'université finalement ?
Alors, je suis un pur fruit de l'Université de Picardie Jules Verne, donc je pense que ça pèse déjà dans la réponse à votre dernière question. Donc, je suis professeur de chimie, donc j'ai depuis 8 années donc occupé le poste de vice-président recherche, donc à côté du président Mohamed Ben Lassen, donc sous la précédente gouvernance. Et puis, je tiens à souligner pour vos éditeurs, hein, à qui je dis bonjour également, donc la recherche n'a pas été mon seul secteur d'activité, puisque, bien entendu, je suis enseignant-chercheur, donc j'ai fait de la formation et j'étais également donc responsable de formation et créateur de formation de master, conjointement avec d'autres établissements du territoire.
Et justement, vous l'avez dit, vous êtes resté fidèle à Amiens depuis votre thèse en 1990. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous attache autant à cette université et à ce territoire ?
La même chose, c'est-à-dire que ce soit le territoire ou que ce soit l'établissement, enfin l'université, je pense que c'est un établissement avec énormément de potentiel. On peut faire beaucoup dans cet établissement. Généralement, la population picarde est plutôt un petit peu timide. Et il faut démontrer justement qu'on a des richesses sur notre territoire, de vrais potentiels. Et donc, au service, bien entendu, du territoire, mais également capable de rayonner à l'international. Et donc, beaucoup de travail à faire, et c'est la motivation principale.
D'accord. Et vous avez été élu récemment, le 6 février dernier, pour un mandat de 4 ans. Quels sont les premiers défis que vous avez dû affronter avec votre prise de fonction ?
Alors, il y a les défis de notre programme. Il y a effectivement les premiers, entre guillemets, défis ou dossiers à affronter. Donc, on a notamment dû, à quelque part, affronter, je pense que beaucoup en ont entendu parler, c'est cette évaluation donc, qui a été conduite par l'HCERS sur les formations de l'établissement. Avec, on peut le dire, une certaine forme d'erreur de la part de cette instance d'évaluation, reconnue par cette dernière, qui a très vite donc rétro-pédalé. Elle était également, cette instance était également en changement de gouvernance, puisque la nouvelle présidente donc a été élue quasiment en même temps que moi, a reconnu donc qu'il y avait eu un petit problème de nomenclature sur les avis livrés au niveau des formations.
D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs qui n'ont pas connaissance de ça ce problème-là?
Alors, une agence d'évaluation donc n'a pas possibilité de faire d'injonction pour ouvrir ou fermer telle ou telle formation. Alors, c'est un petit peu ce qui a été traduit dans la nomenclature qu'a utilisée cette agence, ce qui a mis notre communauté universitaire et nos collègues qui portaient les formations et qui œuvraient tous les jours au bénéfice de ces formations, mais également au niveau des étudiants, une certaine forme d'alerte, voire de peur, hein, puisqu'il y a eu des annonces dans la presse, mais qui n'ont pas touché que l'Université de Picardie-Jules Verne, mais tous les établissements de la couronne parisienne et des Hauts-de-France, avec des annonces qui auraient pu laisser croire qu'en gros 50% de nos formations allaient fermer, ce qui est complètement faux, ce qui a été bien entendu démenti. Les nomenclatures ont été changées sous forme de conseils, et là où certains avis avaient été rendus comme défavorables, c'était plus des conseils à suivre pour les futurs dépôts, donc réellement un accompagnement plus qu'une injonction à ouvrir ou fermer. Je rappelle que seul le ministère n'a possibilité d'ouvrir ou de fermer. Donc je tiens à le dire parce que ça fait maintenant un petit moment, et encore dans les différents médias et notre collectivité traîne encore cette idée, ce spectre de fermeture massive de formation, ce qui n'est pas du tout vrai.
Effectivement, c'est très important de le rappeler ici. Donc, on l'a vu, vous avez été élu récemment à la tête d'une université d'un peu plus de 29 000 étudiants et étudiantes. Est-ce que vous pouvez me parler de vos ambitions pour ce mandat ?
Alors, les ambitions sont à la fois grandes et compliquées, puisqu'on est quand même dans un contexte qui touche les établissements d'enseignement supérieur, un contexte assez contraint. Donc les ambitions s'inscrivent d'une façon assez logique dans la suite de tout le travail qui a été fait pendant les 8 années avec le président Bennahsen, puisque je faisais partie de l'équipe. Donc c'est à la fois une poursuite et puis peut-être également certaines réorientations. Donc une ambition de faire toujours évoluer notre recherche, donc de plus en plus avec une qualité de plus en plus élevée et un rayonnement de plus en plus fort au niveau national et international. Je rappelle qu'il n'y a pas d'université sans recherche. Sans ça, on est collège universitaire, donc c'est très important. Ce lien étroit entre la recherche et la formation, puisque la recherche conduit directement à enrichir et mettre à jour les compétences que l'on transfère au niveau de nos étudiants. Donc un gros travail de ce côté-là, donc avec des projets qui ont été récemment obtenus et qui justement font le pont entre recherche et formation. Renforcer le collectif universitaire, ça c'est quelque chose qui est très important, donc je ne sais pas si on sera amené à en reparler, mais les financements maintenant sont très orientés au travers de projets, et j'avoue que depuis quelques années, nos préoccupations étaient de pouvoir justement obtenir ces projets pour obtenir des financements, pouvoir accompagner les mutations en termes de pratiques pédagogiques. Et donc peut-être qu'on n'a pas forcément maintenu un lien avec certains de nos services, certains de nos collègues, et donc renforcer le collectif universitaire est très important, mettre des métiers en avant et autres. Et puis la vie étudiante, on ne peut pas en tant que président d'université se satisfaire d'entendre que un étudiant sur trois ne mange pas à sa faim sur une semaine, et donc pour moi les priorités côté vie étudiante, c'est justement lutter contre la précarité et tout ce qui est VSS, donc violence sexiste et sexuelle.
Avant de revenir à tout ça, vous l'avez dit en début de votre réponse, vous avez piloté pendant plusieurs années la recherche. Vous avez été vice-président en charge du volet recherche et stratégie scientifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont vos axes de développement aujourd'hui pour la recherche ?
Alors, plus qu'un axe, c'est plus une méthodologie à poursuivre. Notre établissement a deux grandes qualités que l'on peut retrouver au bénéfice de la formation, mais également de la recherche, bien entendu. C'est à la fois sa taille. Nous avons un établissement à taille humaine, où toutes les personnes peuvent réellement échanger, où on peut maintenir un échange, quel que soit donc le statut des personnels, que ce soit enseignants-chercheurs, personnel des services, donc de support, ou encore les étudiants. Donc quelque chose à taille humaine, donc et puis surtout une pluridisciplinarité. On a trois domaines donc qui sont le domaine des sciences technologies, de la santé, des sciences humaines et sociales, arts, lettres et langues. Et donc, on ne dépose plus de projets de recherche actuellement, dans une verticalité monothématique. C'est forcément des projets de recherche plutôt avec une certaine transversalité et une mise à profit de cette pluridisciplinarité pour aller vers réellement de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on a un complément et une plus-value d'associer ces disciplines. Et là, je pense qu'on a encore de nombreuses choses à faire, envers les collègues de ces trois disciplines que j'ai pu énoncer préalablement, sachant que chacun a ses spécificités, ne parle pas forcément toujours le même langage et a besoin des fois d'un petit coup de pouce ou d'un accompagnement donc pour se comprendre et découvrir ce que l'on peut faire. Je ne peux pas m'empêcher de reprendre cette expression que j'utilise tout le temps, être dans un système 1 plus 1 égale 3. C'est pas une erreur de mathématiques, c'est réellement d'aller vers une vraie mise en synergie des compétences et une vraie plus-value.
Donc si j'ai bien compris, en fait, vous souhaitez décloisonner davantage les disciplines, c'est bien ça ?
Tout à fait. Alors c'est quelque chose que l'on a fait, qu'on continue à faire, qui n'est pas achevé au niveau de notre établissement. Mais également, maintenant quelques années, nous sommes dans une alliance avec l'Université du Littoral Côte d'Opale et avec l'Université d'Artois. Et notamment, ce décloisonnement disciplinaire, mieux se connaître, mieux se comprendre, a conduit à obtenir des projets qui sont à l'interface de la formation et de la recherche, qu'on appelle des projets excellence sous toutes ses formes. Chacun de ces projets a été porté par l'un des trois établissements, mais au titre de notre alliance. Et donc, ce sont des grands projets pour 10 ans, à quelque part comme 10 millions, 12 millions d'euros selon les projets. Mmh. Et donc, nous sommes le seul site en France, donc entendez par site cette alliance, à avoir obtenu quelque part le grand chelem. Il y a eu 3 vagues, possibilité de déposer un projet par vague, et on a obtenu un projet pour chaque vague. Voilà, donc je pense que ce décloisonnement, au travers notamment de cette réussite, montre son efficacité.
Décloisonnement, tout à fait, en courant en tout cas. On va parler maintenant de la vie étudiante. Vous venez de signer 2 conventions importantes avec l'Agora et Itinéraire. Pourquoi ? C'est un enjeu central de votre mandat. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces conventions, quels sont ces projets et ces...
Alors, ces 2 conventions, effectivement, pour moi, illustrent tout à fait mes priorités par rapport à cette problématique de vie étudiante. On peut dire qu'il y a... Il y a 2 versants sur la vie étudiante. Il y a tout ce qui peut être accompagné des étudiants d'un point de vue culturel, d'un point de vue événementiel. Et puis, il y a réellement tout ce qui est soutien aux problèmes sociaux des étudiants qui peuvent être des problèmes, je l'ai souligné, de précarité. Il y en a beaucoup. Des problèmes donc de VSS, des problèmes de santé mentale qui sont croissants. Et que nous essayons sur le territoire, donc que ce soit avec le CROUS, que ce soit avec les différentes métropoles, que ce soit avec différentes associations, nous essayons justement d'agir collectivement pour limiter donc ces impacts négatifs sur la vie des étudiants et bien entendu qui entravent leur réussite, mais pas que. Et donc nous avons signé avec l'épicerie solidaire d'Amiens, donc Agorae, donc dirigée par Matteo De Faria, donc qui est également le président de la FEP, donc une convention qui constitue à verser donc pendant 2 ans 25 kilos euros donc par semestre pour les soutenir. Nous envisageons également dans un futur proche probablement une cession de véhicules du parc de l'université de façon à pouvoir renouveler leurs véhicules nécessaires hein, pour faire ces visites de sites. Vous l'avez souligné tout à l'heure, l'université est sur 6 sites. Et puis, concernant Beauvais, nous avons signé une convention avec une association, donc Itinéraire, qui est également une association qui lutte contre la précarité, de façon à ce qu'elle puisse intervenir à la fois sur le site de l'antenne de Beauvais, donc et de l'IUT donc de l'Oise qui se trouve à Beauvais, mais également sur le bassin crayois, donc sur l'IUT de Creil, ce qui permet d'offrir donc des paniers, notamment de légumes et de denrées alimentaires à des prix de l'ordre de 10 à 30% du coût réel.
D'accord. Donc, on le voit bien, entre la précarité et santé, les VSS, donc violences sexistes et sexuelles, vous voulez renforcer vos actions. Est-ce que vous avez des moyens, du coup, mis en place, autres que les conventions signées avec ces deux
Alors,
associations ?
Les moyens que l'on se donne, bien entendu, ben, on essaye de répondre régulièrement à tout type d'appel à projet qui nous permet d'aller glaner quelques euros. Je tiens ici à votre micro à saluer donc le travail effectué par notre vice-présidente déléguée à la vie étudiante, hein, qui est sur tous les terrains, sur tous les chantiers. Et donc, pour le soutien, si on peut faire plus, eh bien, on prend sur les fonds propres de l'établissement. Mais pour nous, ça reste une priorité. Le président Benlassen avait déjà démontré au moment du Covid, en mettant notamment des moyens à disposition, notamment du CROUS, avec une assistante sociale donc dédiée. Voilà.
D'accord. On va passer maintenant au sujet du budget, du financement, etc. On est dans un contexte de tension budgétaire pour l'enseignement supérieur. Est-ce que vous pouvez nous dire comment aujourd'hui on tient une université ? Comment on fait pour...
Alors, pirouette, de ma part, je ne peux pas vous dire comment on tient une université, puisque je suis élu que depuis le 6 février. Donc, il me faudrait un petit peu plus de vécu pour vous dire comment tenir une université. C'est relativement difficile. J'étais hier donc à une réunion en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et avec l'ensemble des présidents d'université. Effectivement, le contexte économique national est très compliqué. Ce que nous essayons, nous, de réclamer, donc bien entendu, c'est d'avoir plus de financement. C'est clair. Mais au-delà de ces financements, c'est d'avoir beaucoup plus de souplesse, notamment pour utiliser ces financements, moins de contraintes. Mmh. d'avoir, là c'est pas en lien directement donc avec les financements, mais également un petit peu un relâchement des pressions qui nous viennent du ministère en termes de reporting, en termes de pas mal de choses qui sont très pesantes pour nos enseignants chercheurs notamment, et nos personnels donc des services en soutien à la recherche. Voilà, et bien au-delà donc de ces contraintes financières, nous sommes opérateurs d'État, donc si on nous donne plus, c'est bien. Sans ça, on doit se débrouiller pour faire avec. Il y a également des critères donc qui ressemblent un petit peu à un glaive au-dessus de notre tête. Ce sont donc des critères qui, si on déroge donc à certains seuils donc de ces critères, nous conduisent directement à une mise sous tutelle au niveau du rectorat, et notamment un critère que peu connaissent, c'est ce qu'on appelle le ratio d'Isambourg, hein, qui est la masse salariale donc divisée par les produits encaissables au niveau de l'université. Ça peut paraître compliqué. Les produits encaissables, on ne peut pas le savoir un an avant, on ne peut le constater qu'au mois de décembre. Et donc, si par contre une masse salariale est trop importante, ce qui comprend toutes les heures faites, les heures complémentaires et autres, si on dépasse 83%, on est mis au bout de 2 fois sous tutelle rectorale. Donc plus aucun choix au niveau de l'université, c'est le rectorat qui choisit à notre place. Voilà, donc on est actuellement dans la mise en place d'une nouvelle cartographie des formations, oui, qui est en lien directement avec ces problèmes financiers. Et donc, dans les différentes instances, j'en ai appelé notre collectif universitaire à tendre vers le raisonnable, puisqu'il est préférable, même avec un peu de contrainte, de garder les choix de notre établissement en interne plutôt que de les déléguer au rectorat.
Évidemment. Comment l'université s'adapte, en fait, on passe d'un modèle actuel qui sont les crédits récurrents à des appels à projets, si j'ai bien compris. Comment on s'adapte ? Comment l'université s'adapte ?
Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc nous sommes obligés de répondre aux appels à projets, donc ce qui est très énergivore, à la fois donc pour les chercheurs, pour les enseignants-chercheurs, puisqu'on a des projets touche la formation et les projets qui touchent la recherche, voire ceux que j'évoquais tout à l'heure, excellents sous toutes ces formes, qui sont réellement des projets à l'interface formation-recherche, puisqu'on ne peut plus en fait dissocier réellement les deux. Donc on s'adapte en répondant, puisque si on ne répond pas, on n'a pas d'argent. Donc si on répond, on a peut-être des chances d'avoir de l'argent, mais également, plus que cela, ça nous permet, pour des projets à fort rayonnement, d'être repérés sur la carte nationale. L'université de Picardie-Juvert, elle est maintenant repérée et identifiée, donc notamment sur la carte nationale, notamment au travers des projets qui sont obtenus. Et donc, je l'ai expliqué, c'est cet aspect chronophage, cette forte densité de réponse au projet, donc fait que il y a moins de liberté, donc d'orientation thématique et autres, et donc ce qui notamment a été demandé auprès du ministre hier, c'est beaucoup plus de souplesse et avoir une partie de récurrence de crédit qui permet donc pour des disciplines plutôt rares ou qui ne sont pas entre guillemets dans la mode actuelle ou de l'environnement ou de l'intelligence artificielle ou de l'énergie et j'en passe, de pouvoir continuer à exercer correctement leur activité.
D'accord, on l'espère. Alors, dernière question, quels sont vos espoirs pour cette université, pour votre mandat ?
Mon espoir, bien entendu, c'est je me suis engagé, en s'engager comme président à la conduite d'un tel navire, vous l'avez rappelé au travers de quelques chiffres. C'est quelque chose d'à la fois de motivant, mais c'était réellement un défi. Les défis, je pense qu'au travers de mes propos, on peut les mesurer. Donc, je souhaite réellement conduire le navire au port et avec encore plus d'équipage qu'au début. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur notre antenne et merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie et je tiens à vous souhaiter un bon anniversaire. Non pas à vous directement, mais à Radio Campus.
Mais à Radio Campus. Merci beaucoup. The hip hop, you don't stop the rockin' to the bang bang boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so
producer, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out, I'm the CASN, the OVA, and the rest is FLY. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1" and I'm tons of fun, and I guess to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a sunroof Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV, so I can see the Knicks play basketball. Hear me talk on my checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a Death OJ. Everybody go, hotel, motel, Holiday Inn. Say if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G, my mellow is on you, so what you gonna do?
Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're singing. Then damn, they start doing the freak. I said bam, a rider out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake it there. You're rocking to the beat without a care. Cruise the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter, the pop, the pop, the pop. Give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, yo. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here. I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere. Cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I say the 1, 2, 3, 4. Come on, girls. Get on the floor. Come alive, yo. Give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said 1, 2, 3, 4. Tell me, wonder Mike, what are you waiting for? To the hip.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens et vous venez d'écouter Rapper's Delight de Sugar Hill Gang. Maintenant, pour commencer cette deuxième partie d'émission, Mathilde, je crois que tu nous as concocté une superbe chronique.
Eh oui, donc hier, le 29 avril, c'était la Journée internationale de la danse. Un petit point historique s'impose. Depuis 1982, le Conseil international de la danse et l'Institut international du théâtre ont mis en place cette journée. C'est l'occasion de sensibiliser le public à la danse en tant que forme d'art, d'expression culturelle et en tant qu'outil d'éducation. Elle a aussi pour but de faire reconnaître la valeur et l'importance de la danse. Mais pourquoi cette date a-t-elle été choisie ? C'est la date d'anniversaire de Jean-Georges Nauvert, un danseur et maître de ballet du XVIIIe siècle. Il danse notamment pour Louis XV. Il est connu pour sa vision moderne du ballet. Il souhaite en faire un art à part entière en mélangeant musique, décor et mise en scène. Pour en revenir à cette journée, chaque année, une personnalité de la danse exceptionnelle est choisie pour écrire un message. Cette année, c'est le Letton Mikhaïl Baryshnikov, danseur et chorégraphe qui a notamment travaillé avec Georges Balanchine et Jérôme Robbins. Il a également été premier danseur de l'American Ballet Theatre. Dans son message, il fait référence aux événements politiques que connaît le monde en ce moment et dit, je cite, « que la danse est le meilleur moyen de donner forme au non-dit ». Il ajoute que la danse peut alors éveiller l'empathie, inspirer la bonté et susciter le désir de guérir plutôt que de blesser. En l'honneur de cette journée, je vous ai donc sélectionné plusieurs événements et spectacles sur Amiens à aller voir. L'Étoile du Sud vous propose un atelier nommé Non-Verbal. Oleg, un professeur de hip-hop, sera également présent.
Lors de cet événement, vous pourrez participer à un atelier de danse sur les bases du tutting, de la breakdance et du hip-hop. Mais vous pouvez aussi assister à une pièce de danse. Cet atelier aura lieu le 10 mai à la bibliothèque du Petit Prince au 123 rue de Mercey à Amiens. Il débute à partir de 10h. Pour vous inscrire, il faut appeler la bibliothèque au 03 22 97 10 90. Une deuxième date est prévue le 14 juin et cela aura lieu à la bibliothèque Hélène Bernheim. Il faudra vous rendre au 3 rue Georges Guinemer à Amiens à partir de 10h. Pensez à vous inscrire, encore une fois, auprès de la bibliothèque au 03 22 69 66 20. Il y a également un événement le jeudi 15 mai au centre culturel Jacques Tati, aux rues du 8 mai 1945. C'est un récit dansé par la compagnie Seule à plusieurs et Anna Ten, une comédienne directrice artistique et performeuse. Le nom de son récit est le portrait d'une femme ordinaire dans un océan de coquelicots. Ce spectacle vous transportera dans les moments clés de la vie de Josiane, un témoin précieux des mouvements politiques en France depuis mai 68. Ce récit dansé explore le corps de Josiane où chaque geste déclenche une mémoire collective. L'événement commence à 19h30, les tarifs varient entre 5 et 12 euros. C'est un spectacle accessible, à partir de l'âge de 10 ans. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le centre culturel au 03 22 46 01 14. Si vous préférez voir un film, alors je peux vous recommander Billy Elliot, encore Dirty Dancing ou encore Paulina danser sa vie. Voilà, en tant que danseuse, j'espère vous avoir donné envie de vous initier à la danse, que ce soit à travers la pratique, les spectacles ou encore les films. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup Mathilde pour ta petite chronique, tu m'as évidemment envie de donner de danser. Et pour de ton côté, Sonia, je crois que tu nous as aussi préparé quelques petites actualités absolument croustillantes.
Oui, tout à fait. Alors pour une touche musicale, la Lune des Pirates, en partenariat avec Radio Campus Amiens, organise une émission de radio et deux concerts. C'est ce soir, mercredi 30 avril, à partir de 18h30. Vous pourrez écouter de la musique électronique avec l'artiste Tentaker et du rap avec l'artiste Seili. Pour ceux que ça intéresse, c'est gratuit et ouvert à tous. Pour la fête des plantes, une raiderie verte est organisée à Amiens ce jeudi 1er mai de 10h à 18h au 60 boulevard du Jardin des Plantes. Vous pourrez vendre ou troquer des végétaux, des outils de jardinage ou encore des livres sur le jardinage. Au programme, des visites guidées du Jardin des Plantes, des animations, des ateliers et de l'artisanat. Si vous voulez exposer, vous pouvez vous inscrire sur le site amiens.fr/raiderie verte, tout attaché et sans accent. Si vous aimez le sport en plein air, le dimanche 4 mai prochain, la mairie d'Allonville organise l'événement Métro 39. Vous avez le choix entre une randonnée pédestre et une sortie en vélo. Pour la sortie à vélo, vous choisissez entre deux parcours qui se feront aux alentours d'Amiens et d'Allonville. Attention pour le vélo, les casques sont obligatoires. Si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver le lien d'inscription sur le Facebook de la mairie d'Allonville, mairie Allonville, et les inscriptions sont gratuites.
Merci beaucoup Sonia. Et malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission de ce mardi 30 avril 2025. Mais pas d'inquiétude, on se quitte en musique avec Impala d'Ed El Question. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à demain pour un nouvel épisode d'Info Club Sandwich.
On voyait balader, danser tout l'été, monter en Impala, kiffer quand t'es pas là. Jean sont tristes, j'en ris, j'oublie que tu existes. C'est fini sur la piste, je twist. Dans la nuit, il y a du monde, je me faufile. Avec style, me regarde dans le miroir, je me noie dans mes yeux. Rigoler des déboires, j'en referai des envieux. Envoyer ce soir, je porte bien ma jupe noire dans une armoire, celle bien cachée, celle qu'on n'a pas le droit de vous montrer. Regardez-moi et poussez-vous, je veux.